Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Comment briser le silence autour des horaires médicales? C'est le thème qui sera largement débattu au cours de ce grand dialogue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ un patient sur 10 subit des préjudices dans le cadre de soins de santé. La même source souligne que plus de 3 millions de décès surviennent chaque année à la suite de soins non sécurisés. Au Mali, la question des horaires médicales demeure malheureusement tabou. Comment briser le silence autour des horaires médicales? Comment assurer de soins organisés et coordonnés? Studio Tamani ouvre donc le débat. Nos invités, Dr Mamadou Keïta, secrétaire général de l'Ordre de médecins du Mali, Bourama Sangaré, psychologue, master en gestion des risques et catastrophes à la faculté de médecine et d'ontostomatologie, et Abdelwahab Diakité, président de l'ASCOMA, association des consommateurs du Mali, qui sera au téléphone. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Des erreurs médicales ou encore négligences médicales sont constatées dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier au Mali. Des hôpitaux sont dans un état de déliquescence accru selon plusieurs observateurs. Certains patients victimes sont devenus handicapés ou gardent de séquelles causées par un mauvais diagnostic ou traitement. Parfois, d'autres y perdent la vie. Notre reporter Moussa Mali Sissoko s'est intéressé à la question suivante.
Le cas le plus récent est survenu dans un hôpital de renommée à Bamako où une dame a donné naissance à un bébé prématuré de 6 mois. Une négligence des agents de santé a conduit à l'amputation d'une main du nouveau-né. Sous l'anonymat, cette nouvelle maman en sanglots s'est efforcée de témoigner.
Ce jour-là, les services de nettoyage nettoyaient la salle. Cela a duré 2 heures de temps. Au même moment, le cathéter qui se trouvait sur la main de mon bébé s'est perforé et le sang dégouliné. Comme cela a duré, certains de ses doigts sont devenus immobiles. Puis, les autres doigts aussi sont infectés. Les médecins m'ont proposé d'amputer sa main, chose que nous avons eu du mal à accepter. Après, les médecins ont coupé la main de mon garçon.
Le jeune Ibrahim, résident à Gao, est aussi victime d'erreurs médicales. Une injection mal faite lui a donné des séquelles à vie, quand il n'y avait que 2 ans.
Je suis victime des erreurs médicales. Il m'a rendu handicapé. Les erreurs médicales, ce sont des erreurs qui peuvent empêcher beaucoup de choses à la personne même, comme moi, car aujourd'hui, il y a des choses à cause de mon handicap, je ne peux pas les avoir.
Certains usagers de Ségou, San et Tomignan expliquent leur mauvaise expérience avec les structures de santé.
Vraiment, ils négligent trop les malades, les médecins, pas du tout gentils.
Souvent, ils ne sont pas du tout accueillants, alors qu'on doit vraiment tenir compte de l'éthique et de la déontologie.
Quand on me demande des erreurs médicales, je peux attribuer ça à une compétence de l'infirmier.
Keïta, réaction à ce reportage?
Ok, donc bonsoir Monsieur Maïga. Effectivement, je réponds au nom de Dr Mamadou Keïta, donc secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali. Effectivement, bon, nous avons bien suivi le reportage avec beaucoup d'intérêt. En la matière, c'est un sujet qui est très sensible, comme vous l'avez si bien dit. Comment briser le silence autour de ces erreurs médicales? Et le sujet n'est pas tabou, on en parle. Et les choses, il y a des vécus en longueur de journée. Mais en réalité, le silence, il est brisé, parce qu'on en parle à longueur de journée. Et les autorités font ce qu'elles doivent faire. Et nous, en tant que Conseil national de l'Ordre des médecins, je veux dire l'Ordre des médecins, avec tous les détachements, je pense qu'il y a des travaux qui sont là-dessus. Et parce qu'à entendre certains d'entre eux, on parle beaucoup plus de négligence, on parle beaucoup plus de compétences, ainsi de suite. Mais je dirais que vraiment, nous, au niveau de l'Ordre des médecins, et les autorités de tutelle et l'Ordre des médecins, nous travaillons à pied d'œuvre pour que vraiment ces choses ne soient pas quand même quelque chose de courant, quelque chose de quotidien du Malien. Et il y a des témoignages qui sont là, dont nous-mêmes nous avons effectivement vécu directement ou indirectement. Voilà, mais il y a vraiment beaucoup d'avancées notoires là-dessus. Ça, je peux le dire.
D'accord. Quelles sont, selon vous, les sources courantes de préjudices subis par les patients?
Bon, les sources courantes, quand on parle d'erreur médicale, d'abord, il faut savoir qui est autorisé à dire qu'il y a erreur médicale ou il y a faute médicale au niveau juridictionnel. Donc, il y a ça. Parce que souvent, aussi, il y a des situations qui ne sont pas bien élucidées. Mais à la lumière, c'est-à-dire, à côté de tout ça, nous ramassons, nous mettons le tous dans le panier pour parler d'erreur médicale. Bon, alors qu'il faut mettre vraiment des gens là-dessus qui puissent travailler, qui puissent réfléchir, des spécialistes en la matière qui puissent parler d'erreur médicale. Et ces erreurs médicales, comme je l'ai si bien dit, on peut le dire, ce sont des manquements qui surviennent lors de la prise en charge des malades. Et cela par peut-être le diagnostic, soit par l'administration des soins. Et voilà, donc il y en a qui ont parlé d'administration de produits en intraveineuse qui a conduit voilà, à l'amputation de main. Donc tout ça, ça se retrouve au niveau des erreurs médicales. Maintenant, les sources, comme je l'ai si bien dit, il y a aussi les infections, souvent qui ne sont pas forcément entre les mains voilà, du médecin traitant. Et ça, ça fait interpeller tout le monde et ça fait interpeller même la population à ce niveau.
D'accord. Bourama Sangaré, vous êtes un psychologue. Vous venez d'écouter ce reportage. Oui. Cette dame qui a mis naissance à un bébé prématuré, oui, dont la main a été amputée. Est-ce que psychologiquement, cela va-t-elle jouer sur l'esprit de cette dame?
Évidemment, Monsieur Maïga, merci de m'avoir donné la parole. C'est un sujet d'actualité et nous avons vraiment suivi avec attention. En ce qui concerne cela, tout d'abord, c'est un comportement. Et c'est le résultat d'un comportement. Alors, tout le monde souhaiterait voir son enfant dans un bon état. Et si cela arrive, psychologiquement, c'est un état de bouleversement psychologique que la femme présente. C'est la raison pour laquelle elle s'exprime ainsi. Tous ceux qui ont appris quand même la scène, alors sans même apprendre en profondeur ce qui a nécessité, ce qui a contribué à l'avènement de cet événement, alors les gens ont quand même leur perception à dire. Et évidemment, c'est un état vraiment de bouleversement psychologique qui est là chez les parents pour le moment.
D'accord. Quels sont selon vous les facteurs entraînant un préjudice pour les patients?
Pour les patients, je voudrais même bien avant d'aborder ces niveaux, parler un peu même. L'état actuel de ce phénomène, appelé l'erreur médicale, il faut savoir que par là, l'Organisation mondiale de la santé en 2019 a montré que pour toutes les minutes, au moins chaque 5 patients meurent à la suite des soins à risque. Et aux États-Unis, ça a été démontré également en 2013, 250 000 patients sont décédés à la suite des erreurs médicales. Après, donc, chez eux, c'est la troisième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Ce qui veut dire que c'est un défi à l'échelle internationale, tout comme également un défi au Mali. Alors, par rapport à la définition même, on parle d'erreur médicale. Lorsque un patient, durant sa prise en charge, subit un dommage qui peut alors engager ou non la responsabilité de son médecin traitant et les sources sont très diverses.
Voilà. D'accord. Abdelwahab Diakité, vous êtes le président de l'association des consommateurs du Mali. Vous êtes au téléphone, vous venez d'écouter ce reportage. Quel sentiment vous anime en écoutant ce reportage?
En fait, c'est un sentiment très pénible, très touché par rapport à ce qui est arrivé à ce garçon qui a été victime d'une négligence. Parce que vous, en tout cas, et nous, à notre niveau, nous ne parlons pas d'erreur médicale, mais nous parlons surtout de négligence. Et cette négligence-là a pour source le dysfonctionnement au niveau des hôpitaux, et surtout les organes de gestion. Deuxièmement, la non-application des textes réglementaires, notamment la loi hospitalière, aussi bien que la charte du malade.
Voilà, vous avez eu tout ça là. Est-ce que réellement, au niveau de l'ordre, ou bien au niveau de la direction, en tout cas de cet hôpital-là, ou bien au niveau même du ministère en charge, est-ce qu'on a entendu quelque chose sur ça? Non. C'est ce qui est pénible. Voici. Partez un peu au niveau des jurisprudences dans nos hôpitaux. Est-ce que réellement on a la possibilité de faire une étude par rapport à ceux qui succombent dû à cette négligence-là? On ne peut pas le savoir. Donc vraiment, c'est un problème. Moi, je ne parle pas du côté mondial, mais je parle du côté malien. Je parle du côté malien. Si aujourd'hui, les organes de gestion des hôpitaux fonctionnaient à hauteur de souhait, et également l'ordre fonctionnant à hauteur de souhait, on pouvait en tout cas diminuer au maximum ces négligences-là. Je lui dis et je le répète, ce n'est pas des erreurs, mais ce sont des négligences. Les textes maliens-là sont tellement beaux et tellement explicites sur la prise en charge des malades. La charge du malade, la loi hospitalière, la prise en charge de l'urgence, sans même demander de financement, de sources, on doit même savoir qui il est. Mais on ne le fait pas. Qui est là pour dire quelque chose? Personne. Les conseils d'administration sont là pour meubler la galerie. La direction est là, je les appelle les pauvres directeurs. Ils sont à la merci, en tout cas des autorités en charge du ministère de la Santé. L'ordre ne peut pas, en son sein, assainir. D'accord, je précise, l'ordre sur certains points, notamment sa lutte contre l'exercice illégal de la médecine, qui est effectivement un sacerdoce. Je félicite l'ordre par rapport à ça. Mais par rapport à la négligence, là, je ne vois pas le salut, quoi, je ne vois pas la présence de l'ordre.
D'accord, vous parlez de négligence et vous dites également, qu'est-ce qui vous fait dire que ces erreurs médicales que vous qualifiez de négligence médicale seraient dues aux non-applications des textes réglementaires en vigueur?
Je vais vous dire tout de suite. Si le directeur sait très bien qu'il peut sanctionner et ne pas subir, c'est-à-dire quoi, de pression au niveau de la RSC, ça va marcher. Les conseils d'instruction sont là. Logiquement, c'est l'interface entre la direction et le ministre et la tutelle. Le directeur, on ne doit pas l'enlever sans pour autant faire référence au conseil d'instruction. Mais malheureusement, c'est à la lecture du communiqué des conseils et du communiqué du conseil des ministres qu'on est informé en tout cas de choses de la nomination des directeurs. C'est pourquoi je parle de dysfonctionnement. Si le directeur sait très bien que le conseil est là pour le protéger, en ce moment, il peut prendre des sanctions. Oui, quand je parle de la non-application des textes, là, la loi hospitalière, là, en son article 10, je crois bien, parle de la prise en charge obligatoire des cas d'urgence sans financement et que l'État est obligé de rembourser les hôpitaux. Faites un tour tout de suite dans les différentes urgences au niveau de la structure sanitaire et vous allez voir des gens qui vont faire 24 heures parce que tout simplement, ils n'ont pas eu d'accompagnant. C'est pourquoi je parle de dysfonctionnement.
D'accord. L'Ordre des médecins est interpellé sur ces questions. On parle de la non-application des textes réglementaires en vigueur. On parle de négligence de médecins et le rôle également de l'Ordre des médecins dans ces cas-là. Que dites-vous?
Merci bien, M. Maïga. Nous remercions très sincèrement notre co-débatteur qui est Abdul Wahab Jakti, qui est de la société de consommation, c'est bien ça. Nous prenons acte de ce qu'il vient de dire. Dans son raisonnement, nous avons quand même pris des bonnes notes. Il y a des choses qui sont là, qu'il a eu à avancer. L'ordre s'en félicite par rapport à l'exercice, la lutte par rapport à l'exercice illégal, effectivement. Et si ça s'est reconnu déjà, c'est très bien. Mais je tiens à rassurer M. Wahab que nous sommes sur le même diapason en la matière, nous sommes sur la même longueur d'onde en la matière. Autant, il s'est rendu compte de la lutte contre l'exercice illégal. Nous sommes à pied d'œuvre. Il a parlé des autorités, comme c'est par échelon, ainsi de suite. Mais je sais que les autorités aussi font de leur mieux, à notre humble avis. Et l'Ordre des médecins travaille à pied d'œuvre, si je peux le dire, donc pour pouvoir pallier toutes ces insuffisances que nous constatons dans nos structures. Donc par rapport à ces sanctions, à ces questions de sanctions et autres-là, généralement, ce qui nous frappe en Afrique, au Mali, et surtout dans le secteur de la santé, c'est que nous ne communiquons pas beaucoup. Nous ne communiquons pas beaucoup. Nous avons certaines statistiques par rapport à la question du conseil disciplinaire. Nous avons été élus il y a moins de 6 mois, mais nous avons quand même saisi par rapport à un dossier. Et nous avons pris la sanction de ces parties jusqu'en conseil de ministre. Et nous avons reçu la félicitation du ministre de la Justice par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ça.
Quel dossier s'agit-il? S'agit-il du dossier de cette femme qui a mis naissance à...
Non, c'est un autre dossier en réalité. Ça, c'est un autre dossier. C'est-à-dire, c'était dans le cadre de la gynéco-obstétrique, la prise en charge, comme vous avez si bien dit, de bout en bout, on s'est rendu compte que vraiment, il y avait erreur, il y avait insuffisance. Et le médecin, nous avons fait ce que nous devrons faire. Nous avons fait un rapport circonstancié et effectivement, les dispositions que nous avons prises par rapport à cela pour sanctionner le collègue médecin, ça n'a pas été caché en réalité, ça a été remonté aux autorités, ainsi de suite. Et je pense que petit à petit, ça va venir. Nous sommes au courant qu'il y a des insuffisances, mais nous sommes là à veiller à ce que les textes-là soient appliqués. Maintenant, il a parlé de loi hospitalière, il a parlé de charte de malade. Oui, ce sont des réalités qui sont là. Souvent, vous le savez, une des choses, c'est de penser au texte, à l'écrire. Une autre chose, c'est de les finaliser, de les mettre en application. Et ces difficultés sont constatées par-ci, par-là. La loi hospitalière qui est là a du mal à fonctionner comme il le faut à la date d'aujourd'hui. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Mais je sais qu'avec le concours de l'Ordre des médecins, et le département de tutelle et avec les confrères, nous pourrons quand même pallier à tout cela pour que cette loi hospitalière puisse être fonctionnelle comme il le faut dans tous ses paramètres. Ça, je le dis. Mais pour rassurer Wahab que nous prenons des dispositions, c'est-à-dire nous sommes sortis il y a très longtemps de ce qu'on appelle le corporatisme stérile. Ça, il faudrait quand même qu'il le sache, que nous nous sommes dissociés de cela il y a très longtemps, la corporation médicale. Je ne veux pas dire qu'on le faisait en réalité, mais nous sommes dit qu'il faut aller vers ça. Pour, comme tu l'as si bien intitulé, pour rompre le silence autour de ces erreurs médicales. Et nous sommes déjà sur cette lancée. C'est pourquoi nous avons pris des mesures très fortes dès notre arrivée, je veux dire, et par rapport à des cas de figure de ce genre.
D'accord. Donc, comment reconnaître une erreur médicale?
Bon, comment reconnaître une erreur médicale? C'est ce que je dis, parce que lui va jusqu'à la négligence. Donc maintenant, nous avons peut-être un problème de lecture. Peut-être que le psychologue, il est là également, il a bien broussé. Le fait de donner des chiffres, je vais revenir un peu en arrière, c'est extrêmement important parce que le Mali est dans un monde. Il est important qu'on s'accentue sur ce que nous vivons et nous faisons, mais il est bien aussi d'avoir un regard ailleurs pour que nous puissions quand même paramétrer bien ce que nous faisons chez nous. Donc ça, c'est extrêmement important. Comment reconnaître? Je le dis. Il ne s'agit pas de déclarer tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour dire qu'il y a une erreur médicale. Ou bien, my God, de passage, disent qu'il y a une erreur médicale, ainsi de suite. Mais il faudrait des personnes compétentes à la matière, c'est-à-dire des médecins spécialistes, l'ordre des médecins surtout, qui doit être saisi par rapport à tous ces cas de figure, qui, en son sein, s'il a la compétence d'avoir quelqu'un qui puisse identifier qu'effectivement il y a eu une erreur médicale, sinon peut faire appel à des spécialistes ou voilà, à toute personne compétente, que ce soit des psychologues et autres là, pour qu'ensemble nous puissions déterminer qu'effectivement il y a eu erreur numérique. Et par rapport à ça, la loi même donne cela à l'ordre des médecins de prendre des dispositions pour pouvoir agir, sanctionner l'agent en question, que ce soit l'ordre des médecins, que ce soit les autres ordres, parce que nous sommes au nombre de 5, donc à tous les niveaux, que ce soit des foot infirmières, ainsi de suite, médical, au niveau du médecin. Donc ça, la loi nous attribue ce pouvoir, mais si nous ne sommes pas saisis aussi certains dossiers, nous nous auto-saisissons également de certaines situations en réalité, parce qu'on n'attend pas qu'on nous donne des informations. Nous sommes sur le terrain, nous avons des structures décentralisées qui nous remontent des informations. Et à chaque fois que nous avons ces informations en la matière, à chaque fois que le département de tutelle nous saisit par rapport à des situations de ce genre, nous nous sommes levés et nous avons fait ce qui devrait être fait, et c'est là avec les textes en vigueur. Voilà.
Est-ce qu'il y a un cas de qui vous a contacté qui mérite nécessairement tout de suite une prise en charge?
Qui mérite une prise en charge?
Un cas très grave, par exemple, qui vous est arrivé. Par exemple, que quelqu'un a se porter plainte auprès de l'ordre de médecins pour dire que oui, mon enfant ou ma femme a subi des préjudices. Est-ce qu'il y a eu un cas sévère?
Je vais vous dire, monsieur Maïga, je vais profiter de votre antenne pour rappeler cela. Je dis, il y a eu même un cas. Le fait que l'enfant soit amputé, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons tous ici, de par les fautes médicales. Comme c'est dans ce cadre-là qu'on a exprimé, même avec les autorités locales de la structure hospitalière, Gabriel Touré. Mais moi, je vous ai dit, il y a eu des cas qui ont conduit même à des morts d'hommes, à la rigueur. Et l'ordre a traité le dossier conséquemment, a porté le dossier devant les juridictions compétentes. Donc, pas question de préjudice, dire que bon, voilà, il y a eu un dommage corporel, on voulait réparer. Non. C'est-à-dire, il y a eu ce cas de figure et nous avons tout laissé, nous sommes attelés à cela. Et nous ne sommes pas arrêtés à la sanction, à la sanction seulement de la personne, mais à ce que la structure puisse répondre mieux aux aspirations de la population, aux aspirations de texte en vigueur. D'accord. Ça, je vous rassure par rapport à cela.
D'accord. Voilà. Comment prouver une erreur médicale?
Bon, monsieur Maïga, merci. Pour prouver une erreur médicale, comme le docteur Gué l'a déjà signalé, peut-être le patient ne peut pas penser qu'il s'agit d'une erreur médicale, mais en réalité, il faut le prouver. C'est lorsque le patient présente déjà des dommages, il pense qu'il a des dommages et qu'il pense que c'est expliqué par la responsabilité des médecins traitants, alors le patient, la première chose à faire, c'est d'aller d'abord vers le médecin, lui expliquer la situation. Et si le médecin reconnaît effectivement qu'il s'agit d'une erreur médicale qui vient de survenir, alors donc il va avoir des solutions à prendre. Le médecin reconnaît ça, donc le fait, donc déjà il va avoir une solution à adapter pour gérer la situation. Et si le médecin ne reconnaît pas, alors le patient peut se rendre chez le directeur de l'hôpital qui à son niveau peut essayer également d'intervenir pour gérer la situation. Mais au besoin, qui peut faire également appel à l'ordre des médecins pour siéger sur la situation. Et malgré tout, si le médecin n'est pas du tout d'accord, quand en réalité ce n'est pas une erreur médicale, alors l'affaire est dans ces cas renvoyée à la justice. Là, il va avoir ce qu'on appelle donc expertise médicale, dont il y a des spécialistes en question qui vont venir alors pour voir si effectivement il s'agit d'une erreur médicale à travers cette expertise-là. Si l'expertise montre qu'alors il s'agit d'une erreur médicale, alors dans ces cas, la décision va revenir au patient si il va demander d'être indemnisé, soit il veut une sanction contre le médecin en question. Et la justice va faire son travail. C'est comme ça que donc c'est fait. L'affaire.
Existe-t-il au Mali une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux? Si oui, comment fonctionne-t-elle?
Oui, en réalité, que ce soit à l'hôpital, dans toutes les structures, il y a ce qu'on appelle la remédiation, la gestion d'une affaire, d'une situation à l'amiable. Quelque chose bien s'est passé et que le médecin reconnaît, ou bien il ne reconnaît pas, mais au niveau du directeur, chez le directeur, ou encore chez, avec l'implication des de l'ordre des médecins, il les reconnaît. Souvent, ça peut dépendre également de la gravité de la situation, qui est mort d'homme, ou bien qui a des blessures, ou bien qui a autre chose. Alors, il y a toujours une intervention du premier niveau. Donc, on appelle la remédiation. L'hôpital peut gérer ça. Ça va dépendre aussi. On ne force pas les patients à accepter. On dit, on peut réparer. Mais si le patient n'est pas d'accord, qu'il veut que la sanction s'applique comme il le faut, alors on va laisser passer l'affaire. Sinon, il y a toujours la remédiation pour gérer la situation à l'amiable. Mais personne n'est obligé. Le patient n'est pas obligé à accepter.
D'accord. Abdelwahab Diakité, est-ce que votre organisation avait une fois été saisie pour des cas comme ça? L'ordre des médecins parlait tout de suite qu'ils ont été saisis pour des cas de mort d'homme. Est-ce que chez vous, il y a eu ce genre de dénonciation?
Non, vous savez, M. Imran, au Mali, on n'a pas cette culture-là, surtout le poids de la religion. Mais moi, je voudrais d'abord parler un peu pour dire ce que je maintiens, la non-application
des textes.
Parce qu'en fait, à un moment, je vous dis que peut-être que je ne connais pas Maïga, sinon en tout cas ses élèves, mais connaissent un moment, on m'appelait la charte du malade.
La charte de
la charte du malade, on m'appelait comme ça, la charte du malade.
Mm-hmm.
Quand nous sommes parus, nous avons combattu pour l'adoption d'une charte pour le malade.
Mmh.
Imaginez un peu, est-ce qu'on peut aujourd'hui, la responsabilité médicale là, quand on a une urgence, on va à un hôpital A, la loi dit que une fois que vous franchissez les portails de l'hôpital, c'est fini, vous n'avez plus de responsabilité. La responsabilité maintenant incombe à la structure d'accueil. Si elle n'a pas une structure d'accueil, donc maintenant, c'est elle qui va se charger maintenant de chercher une structure d'accueil. Mais est-ce que vous savez combien de morts d'hommes? Vous quittez l'hôpital A, après il faut aller à l'hôpital B, après il faut aller à l'hôpital C. Entre-temps, le patient rend l'âme. Pourtant, qu'est-ce qu'on peut parler de cela? Ça, c'est uniquement ça, c'est le non-respect des textes. Ou la charge du malade également, en son article 27, donne des voies de recours aux patients. Comme l'a dit le sociologue, la première voie de recours, ça c'est le directeur même de la structure. Et c'est à défaut de la prise en charge, et maintenant qu'on amène sur le contentieux. Donc pour vous dire que tout ça là, c'est là. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que réellement ces textes soient appliqués? Ce n'est que ça. Donc, moi, je pense très bien que qu'on quitte cette définition-là, aller appeler le médecin législatif, mais les faits sont là, concrets. Malheureusement, avec le poids de la religion, on ne peut pas se plaindre. Parce que même si tu as envie de te plaindre, on va te dire non, ce n'est pas la peine, c'est l'affaire de Dieu. Moi, je vais vous dire un cas qui m'est arrivé personnellement. J'ai eu mon grand frère qui était dans un état très difficile. Nous sommes allés dans une structure sanitaire, dans un hôpital de troisième référence. Les autres étaient en avant sur moi. Systématiquement, on a dit non, 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 il n'y a pas de place ici. Entre-temps, moi, je suis arrivé et j'ai dit, mais quoi, vous n'avez pas de place ici? Ah, mais non. En tout cas, vous allez vous changer du reste parce que moi, je sais ce que la loi salaire en dit. Et je sais également ce que la charte dit dans ce domaine-là. Systématiquement, il y avait un vieux médecin, il a dit non, 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 monsieur, non, 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 nous allons prendre ça en charge. Bon, imaginez un peu. Si je ne maîtrisais pas, en tout cas, si je n'avais pas connaissance de ce texte-là, on allait me faire déplacer, c'est-à-dire parodier toute la ville et finalement le frère allait rendre l'âme. Mais Dieu merci, avec cette prise en charge, il n'y a pas eu de problème.
Mais est-ce que les consommateurs savent-ils comment reconnaître une erreur médicale?
On ne peut pas le savoir, mais l'erreur pour moi, nous ne parlons pas d'erreur médicale, nous parlons
de négligence médicale.
Ou de négligence médicale. Quand je rentre dans une structure sanitaire, on me dit d'aller dans une autre structure sanitaire Et entre-temps, mon patient est mort, ça veut dire que c'est la responsabilité de l'hôpital qui devrait m'accueillir. Pour moi, c'est ça la négligence. Est-ce que vous comprenez?
D'accord.
Mais vous êtes en train de prendre nos textes là et puis les calquer sur les textes occidentaux. Mais non, nous sommes à combien de pourcents d'analphabètes? C'est de cela que nous parlons. C'est pourquoi également cette table du malade-là a été adoptée depuis 2008.
D'accord.
Il s'agit juste de le respecter.
D'accord. Vous aurez la parole. On va donner le temps à l'Ordre de médecins de réagir par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et, selon lui, qu'est-ce qu'il faut pour appliquer le texte? Il parle de la non-application des textes. Est-ce que l'Ordre de médecins en fait une arme de combat?
Oui, Monsieur Maïga, sans nul doute. Je pense que les autorités elles-mêmes sont là-dessus. Vous savez, on ne va pas rentrer dans d'autres considérations. En réalité, on connaît l'évolution dans ces dernières années. Qui parle de texte, d'application de texte, parle de certains processus, tout un processus en réalité. Maintenant, il y a des responsables qui viennent pendant un moment, après, voilà, il y a d'autres qui viennent. Donc, voilà des choses qui sont là. Nous n'avons pas quand même trop besoin de rentrer dans tous ces paramètres. Je pense que Abdoul Wahab le sait mieux que nous en la matière. Maintenant, ce que moi j'aimerais savoir, ces textes-là sont bel et bien, ils ont été pris et je pense que les discussions sont en cours. Comment est-ce que leur application puisse être effective? Et je pense que même si ce n'est pas l'application de la loi hospitalière ou autre, il y a le code de déontologie. Il a parlé de charte malade. Partant de cela déjà, de par ce que le médecin, l'agent de santé est, et c'est du code de déontologie, je pense que quand les efforts vont continuer, nous pensons qu'on ne va pas constater encore des insuffisances de ce genre. Je ne parlerai pas de négligence, mais des insuffisances de ce genre. Et par rapport à l'ordre des médecins, je l'ai dit, nous avons nos textes que nous mettons en application en longueur de journée. Et on les applique d'abord sur nous-mêmes. C'est ce que nous avons dit. Nous les appliquons sur les agents de santé. Et à chaque fois que nous sommes au courant d'une situation, mais quand tu n'es pas saisi d'un dossier ou bien quand le malade sort, il va du plan pénal, alors le médecin ne peut rien faire.
D'accord.
Voilà, donc il a si bien dit, le psychologue l'a dit, il était d'accord avec ça. Quand il y a une situation qui est là, il faut déclarer auprès de qui de droit pour que vous puissiez obtenir quand même gain de cause. Mais quand ça sort, ça va sur d'autres plans pénals. Et ça, nous, nos dispositions, nos applications de textes, nos sanctions et autres là, n'empêcheront nullement pas effectivement la procédure pénale. Mais en réalité, quand vous voulez sentir, comme lui l'a si bien dit, eux veulent entendre, ils veulent savoir qu'effectivement, les autorités sanitaires ont pris des décisions, il y a ça, il y a eu répression. Mais pour cela, il faudrait que le dossier soit à notre niveau.
D'accord.
Mais si le dossier n'est pas à notre niveau, comme je l'ai si bien dit, c'est pourquoi c'est la loi même qui a attribué ses compétences à l'ordre des médecins, mais c'est mieux connu.
Mmh.
Et quand c'est mieux connu, effectivement, nous sommes là, nous avons pour rôle de vulgariser nos textes. Et quand nous sommes venus pendant plus de 6 mois, on n'a fait que vulgariser nos textes. Nous avons rencontré pratiquement tous les départements. Nous avons rencontré même des sociétés civiles pour leur en
D'accord.
parler.
Le consommateur ne veut pas parler d'erreur médicale, mais plutôt de négligence médicale.
Mm-hmm.
Quelle différence existe-t-il entre l'erreur médicale et négligence médicale?
Si je l'ai suivi avec intérêt, quand il parle de négligence, il dit « je vais dans une structure, il n'y a pas de place. Je vais entre-temps dans une autre structure, on me dit « il faut aller ailleurs ». Bon, parler de ça, négligence, moi, je ne peux pas le comprendre dans ce sens, en toute sincérité. Parce que quand les médecins, les agents de santé ont pour responsabilité de recevoir les malades aussi, c'est pour sa prise en charge. Tu ne peux pas prendre et recevoir aussi les malades alors que tu as espoir d'avoir l'opportunité ailleurs pour que le malade puisse être sauvé. Moi, je pense que le fait de référer, c'est ce qu'on appelle la référence évacuation. Souvent, tu verras qu'il y a des manquements à ce niveau. Soyons d'accord. Il faut le dire. Mais la référence évacuation est un moyen de traitement et d'assistance aussi de la personne. Mais tu ne peux pas dire que je prends pour faire plaisir également à la personne ou céder à la pression, dire que je vais prendre. Alors que toi, quand en le prenant, tu ne peux pas faire grand-chose pour la personne, alors que le malade a la chance de bénéficier, même si c'est quelques secondes de vie ailleurs, tu as l'espoir de lui orienter. Maintenant, les conditions dans lesquelles tout ça se déroule, Ce sont ces conditions qui doivent être revues. Maintenant, peut-être que c'est ce qui part de négligence et ainsi de suite. Voilà, mais les erreurs médicales restent les erreurs médicales, d'accord, seront qualifiées de faute médicale au niveau juridictionnel. D'accord. C'est ce que j'en sais.
Sangaré, vous avez parlé de voie de recours. Contre qui exerce le recours suite à une erreur médicale?
Par rapport à cela, il dit tout d'abord, les malades, quand ils constatent qu'il a subi une erreur médicale, là, la première personne à s'intéresser, c'est d'abord à son médecin. Et au besoin, au directeur de l'hôpital. Mais malgré tout, si le médecin n'accepte pas, donc il sera à la justice. Voilà. Mmh. Généralement, précisément, je suis le procureur. PC saisir des dossiers et demander à faire une expertise pour prouver l'erreur médicale. Voilà. Comme je l'ai bien dit, tout ça peut dépendre aussi souvent de la perception du malade. D'accord. Ça peut dépendre de la perception du malade.
Au Mali, les erreurs médicales sont-elles recensées?
En réalité, on sait qu'il y a des types d'erreurs médicales, on le sait, tout comme c'est généralement quand on parle d'erreurs médicales, très généralement, c'est l'erreur médicale de diagnostic qui est la plus fréquente. C'est-à-dire, le médecin peut comprendre la maladie en sa manière, alors il pense qu'il s'agit précisément d'un tel tableau clinique, alors que la maladie qu'il traite est différente de ce que le malade présente. Précisément. Donc, il traite autre maladie que les malades ne présentent, d'où les risques de complications ou même voir les décès des patients. Donc, comme le cas de la dame qui est vraiment déplorable peut également s'expliquer à travers cela. Donc, une erreur de diagnostic qui va conduire soit à l'opération d'un membre ou d'un organe sain. Alors, donc, par rapport au type, bien sûr, ça existe, mais les données exactes qui montrent qu'un tel patient a subi, donc pendant un temps donné, une erreur médicale, les données pour le moment manquent. Il faut que les recherches soient faites en ce sens, des recherches cliniques de haut niveau en ce sens soient établies pour vraiment nous prouver qu'il y a une telle statistique sur les erreurs médicales au Mali.
Donc, si j'ai bien compris votre raisonnement, l'erreur médicale la plus répandue au Mali, c'est l'erreur de diagnostic.
Pas au Mali, de façon générale. Parmi les lots des erreurs médicales les plus fréquentes, c'est les erreurs médicales de diagnostic. Et ensuite, les erreurs médicales liées aux prescriptions et à l'utilisation des médicaments, de façon générale.
On en
Mais dire qu'il y a des chiffres...
Il n'y a pas de chiffres?
Exact au Mali. Non, pour le moment, il faut que des études soient faites. Il faut des études sur le terrain, alors à la suite de ces études, on saura dans quel est l'état des lieux par rapport à la prévalence ou au nombre d'erreurs médicales.
D'accord. Vous voulez réagir?
Voilà, Maïga, et je pense que le collègue psychologue a marché sur ma langue pour vous rassurer, parce que quand vous dites est-ce que ces erreurs sont recensées? Oui, elles sont recensées au niveau de toutes les structures. Il ne peut pas y avoir de dommages corporel, le dommage au cours de la prise en charge au niveau d'une structure gérée par des responsables qui jouissent quand même d'une certaine autorité et que quand il y a des insuffisances au niveau de ces structures, que ces choses-là ne soient pas recensées. Elles sont recensées, mais il a si bien dit. Il ne s'agit pas de les recenser, mais il s'agit aussi, après recensement, de prévoir au moins se faire le récapitulatif par rapport à cela. Et je vous le dis, à chaque fois qu'il y a décès, ça c'est l'extrême. À chaque fois qu'il y a dommages corporels, les cas de dommages corporels, ça c'est autre chose, mais de décès, surtout dans le cadre de la gynéco-obstétrique, les autorités ont pris tout le temps les décisions d'aller au niveau des structures décentralisées pour diffuser et instruire ce qu'on appelle l'audit de la situation, l'audit du décès maternel. C'est-à-dire on fouille jusqu'à là où, depuis si c'est à la porte d'entrée que ça n'a pas marché, pour pointer du doigt. Et ces informations sont remontées, les récapitulatifs sont faits, les informations sont remontées. Il y a un rapport circonstancié qui est fait et qui est adressé aux autorités. Et je pense que c'est ce qui fait que chaque fois, il y a des mesures qui sont prises à l'endroit et souvent, les agents de santé...
Comment être indemnisé d'une erreur médicale ou d'une faute médicale?
Bon, être indemnisé comme d'une erreur, nous, c'est les sanctions disciplinaires. Hein. Donc ça, c'est au niveau de l'ordre des médecins. Maintenant, le pénal saura et comment est-ce il faut être indemnisé. Voilà, ça, c'est. Je dis, il y a les deux facteurs qui sont là.
il y a le côté de ce que nous faisons en tant qu'ordre des médecins. Donc nous prenons des dispositions par rapport aux collègues pour le respect de l'éthique et la déontologie, le bon exercice de la profession. Et à chaque fois qu'il y a manquement par rapport à ça, nous nous prenons des décisions. D'accord. Et ces décisions sont des décisions disciplinaires. Il y a une commission qui est tout de suite mise en place, qui prend des décisions, des sanctions allant dans ce sens. Et d'accord, ces sanctions sont connues déjà. D'accord. Mais en ce qui concerne comment les dédommager et ainsi de suite, ça c'est le côté pénal.
Et là, nous reste 4 minutes, nous allons donner le temps à Abdelwahab Diakité. Abdelwahab, comment éviter selon vous les plus grosses fautes médicales?
Moi, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce qu'ils ont dit.
Mmh.
En fait, au Mali, le docteur est en train de parler de système, c'est-à-dire les erreurs médicales sont prises dans le cadre du système d'information hospitalière. Donc, sont durées. Mais je suis d'accord avec le sociologue quand il dit qu'il n'a pas eu d'études de rigueur par rapport uniquement aux erreurs médicales. C'est là, c'est ce qui est réel. C'est-à-dire les informations hospitalières, là, il y a tout là-dedans. Mais sur les erreurs médicales, là, on n'en parle pas. Non. Je regrette. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, vraiment, c'est-à-dire que les populations, les consommateurs même, c'est-à-dire apprennent à dénoncer. Et à dénoncer par les voies réelles. C'est-à-dire en respectant les textes de la République. Mais qu'est-ce que nous consensons au niveau des consommateurs? Généralement, c'est la passion, l'insulte de médecin. Bon, finalement, on dévie les voies de recours. Sinon, imaginez un peu. Jusqu'à présent, moi, j'ai un grand frère qui a subi une erreur médicale. Mais quand je lui ai demandé d'attaquer, il a refusé. Mais il est en train de souffrir aujourd'hui. Il tremble.
D'accord, malheureusement.
Maintenant, ce qu'on demande mm-hmm. À l'ordre des médecins, il y avait de très bons rapports entre nous. Donc, on essaie de conjuguer nos efforts pour ramener les pratiquants, c'est-à-dire à être des médecins d'antan.
D'accord. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de continuer. Nous allons faire un tour de table avant la fin de cette édition. Comment assurer des soins organisés et coordonnés?
Et là, il vient de le dire, ça m'a beaucoup plu, hein, M. Wade. Bien vrai qu'il soit là pour défendre les consommateurs, mais je pense qu'il le fait avec raisonnement. Et là, nous lui disons chapeau par rapport à ça. Et comme il a si bien dit, la dernière phrase, c'est de conjuguer les efforts. C'est de savoir mieux s'organiser. Il ne s'agit pas que l'ordre des médecins est là seulement, mais la société de consommateurs, les structures hospitalières, ainsi de suite, qu'on ait une même vision, c'est-à-dire qu'on ait une communication, une connexion, une interconnexion pour pouvoir quand même pallier à ces insuffisances. Mais pas que ces insuffisances, il ne faut même pas qu'on constate les insuffisances. Nous sommes à l'échelle où nous voudrons que les médecins soient encore meilleurs. Qu'on ne parle même pas d'insuffisance ou d'erreur ou de ce que lui parle de négligence, où les autorités sont interpellées encore à renforcer davantage. D'accord. Et nous saluons les autorités de passage parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont été relevées du niveau de CSRF pour des niveaux des hôpitaux. Tout ça, c'est pour répondre aux aspirations de la population,
okay,
dont la consommation, c'est-à-dire la société de consommation de Watt, qu'il se rassure.
Abdelwahab.
Et les portes de l'ordre sont d'accord. Grandement ouvertes.
En 15 secondes, en 15 secondes,
oui. Ce qui leur revient de droit.
Merci. En 15 secondes, comment assurer un soin organisé et coordonné?
Pour cela, en réalité, il faut la collaboration. Il faut mettre l'accent sur la collaboration interprofessionnelle. Surtout en cadre de santé, qui est les médecins, spécialistes, généralistes, infirmiers, tout le monde collabore.
D'accord.
Et il est démontré que quand la collaboration est bonne entre les médecins, cela va diminuer largement les taux d'erreur médicale.
Voilà, merci. C'est sur ce mot de Bourama Sangare que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait à comment briser le silence autour des erreurs médicales. Et nous étions avec Dr Mamadou Keïta, secrétaire général de l'Ordre de médecins du Mali, Bourama Sangare, psychologue au département de la psychologie, psychologue au niveau de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, et Abdul Wahab Diakité, président de l'ASCOMA. Merci d'avoir suivi ce débat qui vous a été présenté par Imrana Kilumaiga. À la mise en onde et régie vidéo, nous nous direz. Merci de l'avoir suivi.